l'intention de financer une partie d'infrastructure sur les propriétés foncières, est-ce que c'est toujours d'actualité? Il me semble que ça a été abandonné pour une cause de difficulté à mettre en place une telle taxe. Et par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les valorisations des actifs, notamment les valorisations immobilières auxquelles vous pensez? Et de quelle manière, c'est-à-dire, est-ce que la SGP est en train de se transformer partiellement en société immobilière, comme on peut le voir dans certains pays d'Asie du Sud-Est pour financer l'infra ou pas?
Je réponds philosophiquement. Alors, effectivement, au départ, de mon souvenir, il y avait une idée qui était un peu l'idée de ce qu'on a pu voir comme modèle, notamment en Asie. On parle par exemple d'Hongkong, Katia ou d'autres opérateurs qui étaient de se dire comment est-ce que la société de montage, en tout cas la maîtrise d'ouvrage d'un tel projet, peut capter une partie de la valorisation foncière qui va être générée par le projet. Je vous avais parlé, je vais peut-être remettre le slide, on estime à de l'ordre de 35 millions de mètres carrés des projets d'aménagement autour de cas. Et nous, on a de l'ordre de 1 million. Mètres carrés en termes d'objectifs. Je pense que du coup, ça va permettre de répondre à votre question, c'est-à-dire que le Grand Paris Express ne sera pas financé de manière substantielle par les projets d'aménagement. Ce million de mètres carrés, pour nous, c'est la capacité de valoriser les emprises qu'on a déjà. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, 130, à l'heure actuelle, on a plus de 130 chantiers, chaque chantier est imbriqué dans le tissu urbain, et donc ce sont, une fois que les chantiers sont terminés, une opportunité de pouvoir les valoriser. Les gares, ce sont, je vous l'ai bien vu, ce ne sont pas effectivement que des centres de métro avec un ascenseur ou avec un escalier, comme on peut le concevoir ailleurs. C'est bien une émergence. Cette émergence, elle peut effectivement être une capacité de pouvoir construire au-dessus. Et donc on va effectivement, pour que ça tombe bien, céder des droits à construire. Mais c'est aussi une imbrication pour être sûr que les projets autour, c'est autour des 300 mètres de ce principe-là, on se donne la capacité de pouvoir participer aux côtés des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou l'ensemble des sociétés d'aménagement. Donc on n'est pas en train de mettre en place une société immobilière, on est juste en train d'essayer d'être un peu un catalyseur d'opportunités pour les acteurs qui sont déjà en place.
Oui, bonjour, Yannick Dubois, Caisse des Comptes, dans le département investisseur sur les infrastructures. Et je me demandais si la recette permettait de provisionner, de faire face aux dépenses de GER dans le temps.
Les dépenses de
gros entretiens de réparation, le GER, et savoir quelle était la durée de vie à peu près d'une ligne, et quand était du coup le pic de GER prévu.
Nous, on construit l'infrastructure initiale, on ne s'occupe pas de l'ensemble de l'exploitation, maintenance et de l'ensemble de ces problématiques-là.
Donc le coût
serait supporté par l'État. Après, le coût, c'est comme je vous disais, il y a vraiment deux poches. Il y a la poche de l'investissement initial, avec des recettes fiscales dédiées et un modèle économique autonome et indépendant. Puis après, effectivement, il y a la phase d'exploitation et de maintenance qui, elle, est gérée notamment par soit le prix du billet, soit le versement de transport par l'intermédiaire des défenses mobilités.
Je ne sais pas si vous l'avez dit, combien d'habitants en plus on estime avoir après en 2030? Parce qu'on a vu donc effectivement 250 000 à 400 000 logements créés. Et est-ce que c'est pris dans le calcul effectivement des émissions de CO2 en moins, en particulier parce que plus d'habitants potentiellement plus de pollution atmosphérique et d'émissions de gaz carbonique. Donc ça c'était ma première question. Et la deuxième question concerne Paris, c'est une ville horrible parmi les grandes villes mondiales. C'est une ville horizontale. Quel est le projet d'urbanisme pour le Grand Paris? Est-ce qu'il va garder cet ADN de Paris ou comment ça s'articule par rapport à l'aménagement et l'urbanisme? Le projet
Paris. Alors, j'ai en tête, évidemment, on a pris en compte dans notre scénario de référence la croissance estimée en termes d'habitants, mais aussi en termes d'emploi, l'attractivité. activité pour les calculs socio-économiques. Je dois vous avouer que j'ai plus le chiffre en tête en raison de 2030, donc plutôt de me lancer dans une estimation qui s'appelle réelle. Mais en tout cas, c'est bien pris en compte. Et c'est bien pris en compte au niveau du bilan carbone, c'est-à-dire c'est bien le delta par rapport à cette situation de référence qui est prise en compte. Juste pour vous donner une idée, on estime à environ un tiers l'effet bénéfique du report modal et à deux tiers l'effet bénéfique de la densification urbaine autour des gares. Pour donner quand même une idée sur le fait que c'est un enjeu qui est relativement important, mais qui est un enjeu sur lequel nous, une fois de plus, on est des catalyseurs. Et donc, l'intérêt de la question est assez long. Sur l'ADN de Paris, nous, on travaille sur nos gares. On essaie d'en faire, effectivement, comme je le disais, des lieux de vie, des lieux d'échange, les plus ouverts possibles sur l'environnement urbain avoisinant. Après, chaque maire, dans le cadre de son PLU, dans le cadre de ses opérations, va être maître du développement qui va être autour de ces gares. Et donc, là-dessus.
Vous n'avez pas évoqué les droits de mutation avec la récente levée de bouclier des départements sur la participation et le financement de la SGP. Ça s'inscrit comment en fait par rapport aux statuts fiscaux que vous avez dit tout à
l'heure? Alors, moi là-dessus, je reçois des recettes fiscales qui sont déterminées par l'État. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur quelles ressources l'État veut nous mettre à disposition. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que l'État, en 2018, par l'intermédiaire de Gilles Carrez, s'est repenché sur les équilibres de long terme de la Société du Grand Paris. Et Gilles Carrez a estimé qu'on pouvait tenir sur cet horizon de 2070, avec les éléments de remise à jour des coûts d'investissement, c'est qu'il fallait qu'on augmente les recettes fiscales par rapport à 2018 de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros par an.
Par rapport aux 700
par rapport aux 500 précédents. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans les purs, c'est-à-dire qu'on est dans cette trajectoire. Après, effectivement, l'État, pour aller jusqu'au bout de ces 200 250 millions, peut mobiliser les ressources qu'il veut. J'ai pas plus de commentaires à faire.
J'ai une question sur les potentiels effets rebonds. Parce que vous avez montré qu'il y avait plein de gains de temps, mais on nous a aussi appris que, depuis le début de cette formation, qu'en fait, le temps de déplacement des gens, il était stable depuis 70 ans. Je vois pas pourquoi dans ce cas-là ça serait pareil, les gens vont aller plus loin, plus vite, puisqu'on leur offre des trains plus sympas, plutôt que de gagner du temps au trajet du quotidien. Donc est-ce que vous avez mesuré, et puisque vous présentez des gains sur CO2, est-ce que vous avez mesuré ces potentiels effets rebonds et finalement le fait que les gens vont juste habiter plus loin, et est-ce que vraiment quand on intègre ça, on a des vrais gains de CO2?
Alors oui, sauf que là, on est quand même dans une infrastructure qui est une infrastructure en rocade, dans une zone qui est déjà une zone urbaine et urbanisée. On n'est pas dans une logique de RER hein, où on va créer des pôles à 30 ou 40 km de Paris qui vont être desservis par le cœur de Paris. Donc on est dans une logique qui est une logique de revitalisation, en tout cas de densification d'une zone qui est déjà une zone périurbaine relativement importante. Bien évidemment, on tient compte du fait qu'il va y avoir un déplacement de population qui est, enfin, je ne sais pas si nécessaire, en tout cas qui va avoir lieu, mais on n'est vraiment pas du tout dans cette même logique, donc du coup cet effet-là est quand même nettement moins important dans notre bilan.
Peut-être la densification là, sur le petit couronne va quand même du coup aller en deuxième, voire troisième couronne, donc c'est pas le même.
Dans ce genre d'idée, est-ce qu'il y a eu des travaux, des réflexions sur justement le travail avec les zones périphériques et les régions voisines, de perspective d'interconnexion et d'adaptation à la ville des radiales plus éloignées, sous l'égide de la France Mobilité ou même, je ne sais pas. Et j'aurais peut-être deux autres questions. Donc il y aura 34 millions de mètres carrés qui seront pas de votre fait. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la récupération de la rente foncière taxation des plus-values sur les biens qui seront rendus avec une plus-habilité grâce à des certes que vous proposez. Et puis troisièmement, en quoi le fait que ce soit la Société du Grand Paris qui émette l'ouvrage est plus efficace que si c'était le France Mobilité, par exemple, qui avait pris dans les ouvrages, qui avait aussi, par exemple, la capacité à se financer par le France.
Alors, sur votre première question, la seule chose que je peux commenter, c'est que quand on a fait le schéma directeur de cette infrastructure, on avait évidemment en tête le fait que cette infrastructure, pour qu'elle soit efficace, vu que c'est notamment un gros cadre, il faut qu'elle soit interconnectée avec le réseau existant. Quand je parle de réseau existant, c'est pas le réseau existant actuellement, mais c'est tenant compte aussi de l'ensemble des prolongations autour du métro que des RER qui sont déjà prévus et qui seront en service d'ici 2030. 80% de nos gares sont interconnectées à ce réseau à l'horizon 2030. Je ne suis peut-être pas mieux placé pour commenter la suite. En tout cas, je pense qu'il faudra poser la question de France Mobilité sur les perspectives d'augmentation du réseau au-delà de ce qui est prévu dans la carte. Sur le sujet de la plus-value, je pense que là-dessus, j'ai pensé à. Le modèle ne repose pas sur ça. Le modèle repose sur les recettes fiscales qui sont affectées. L'équilibre financier long terme est assuré par la Société du Grand Paris. Alors, du coup, le sujet des DMTO, qui sont d'une certaine manière une façon pour l'État de réinjecter une partie effectivement de la dynamisme des plus-values au sein officiel. Là-dessus, je ne ferai aucun commentaire, hein, mais en tout cas, ça ne pourra pas être le vecteur, ou en tout cas le levier de l'équilibre économique long terme de la Société du Grand
Paris. Mais indépendamment de la question du levier, on peut se poser la question de savoir quels sont les bénéficiaires de sa valorisation.
Ça, c'est un sujet qui est dans l'infrastructure de transport qui est toujours le même.
On espère toujours qu'il progresse.
C'est un problème, mais ça fait une formidable opportunité pour.
C'est déjà à l'œuvre. Il y a déjà des gens qui ont anticipé l'arrivée du Grand Paris. Quand on regarde, par exemple, le prix de l'immobilier autour des futures gares, on voit qu'il est déjà très dynamique.
Non, ce qui avait été prévu par le volume 2 sur la capacité de l'ouvrage, là, c'est pas
tellement.
C'est ça. Il n'y a pas de réflexion parlementaire.
Il y a eu des réflexions, il y a même eu des propositions. Nous, on a à Télévue, on a proposé ça dès les années 2002-2003. Mais Bercy a toujours dit non. Hein. Bercy a été toujours très hostile en disant ça marche pas, c'est compliqué, c'est pas facile à percevoir. Mais c'est vrai que les Japonais, c'est vrai que les Suédois, c'est vrai que d'autres aussi ont valorisé les plus-values immobilières. Mais bon, on n'est pas encore réussi à convaincre.
Le domaine 2 l'avait mis pour les SST quand même.
Eh oui.
Donc là, il y a une immense plus-value.
Bonjour.
Juste, pendant la Société de Montpellier, la responsabilité de la troisième question, en quoi c'est plus dans le sens?
Pour que le système tel qu'il a été configuré fonctionne, il faut une société de projet spécifique. Puisque si on veut avoir la fiscalité dédiée, une capacité emprunt avec un bilan qui soit entre guillemets garanti implicitement par l'État et des équipes de maîtrise d'ouvrage qui soient spécialisées.
Et de France Mobilité pour le faire, ça.
Oui, mais ça ne sera pas. Il
faut se souvenir aussi du débat politique qu'il y a eu entre le président de la République et le gouvernement à l'époque, et le président de la région Île-de-France, qui était à l'époque Jean-Paul Mouchon, qui avait un projet qui n'était pas celui-là. Hein. Donc, comme l'État avait une volonté très forte d'agir, hein, ben, il a trouvé d'autres voies de passage.
Alors, il y a quelqu'un qui est au bout du fil qui voudrait poser une question.
Je ne sais pas s'il nous entend. Ben, je sais pas.
On peut peut-être prendre ce.
Oui, donc moi je suis Julien Chan, je suis architecte urbaniste à l'agence Urbanica. On fait plusieurs études de Gaulle sur les gares de la 14, de la 18 et de la 15. Et cette question remarque en même temps parce qu'on sait qu'on a parlé d'immobilier et on sait combien il est important aussi l'environnement urbain et les aménagements qui vont se situer autour des gares, pour citer des ouvertures sur les quartiers. Et évidemment, c'est un levier important aussi pour la qualité de vie des futurs riverains. Alors en fait, ma question, c'est plutôt de dire qu'effectivement, au-delà de tout ça, et puis de tout le travail qui a été fait sur une place de Grand Paris, qui vient d'être publié, on s'aperçoit dans la réalité qu'effectivement, vous parliez de financement, le rayon des 300 mètres, qui était une belle ambition et sur lequel nous, on a proposé plein de choses avec effectivement une vision à court, moyen et long terme qui était assez ambitieuse. Effectivement, le financement, on se retrouve confronté un petit peu à la réalité et les découpages financiers pour pouvoir réaliser ces ambitions sont évidemment, on s'y attendait, hein, avec l'équipe de France Mobilité, avec les partenaires locaux, sont assez difficiles à trouver. Donc en fait, est-ce que vous pensez que par rapport à cette prise en compte-là, il y a d'autres leviers qui vont permettre, sachant que ces aménagements généralement sont une petite part de l'aménagement global par rapport des infrastructures, est-ce qu'il y a d'autres leviers qui vont être envisagés d'être levés pour pouvoir effectivement répondre à cette attente qui est la partie visible du projet? Merci.
Alors nous, je parlais des missions, de nos missions complémentaires, les 3,4 milliards d'euros qui sont dévolus à des projets de modernisation du réseau francilien. On a, dans le cadre de cette enveloppe-là, une quote-part du coup des adaptations du Grand Paris Express avec les réseaux existants, en tout cas avec l'environnement existant. Et on a dedans, donc, je disais, de l'ordre de 30% du coût estimatif de l'ensemble de ces opérations, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe de 450 millions d'euros pour participer au financement sur ce type d'opération. Ça ne représente que 30% effectivement du tour de table maximum. Une fois de plus, après, l'ensemble de, nous ne sommes pas le seul acteur du système, mais l'équilibre doit se trouver de manière harmonieuse entre l'ensemble des intervenants qui participent à la vitalisation.
C'est une surface éolienne de France.
Je ne me permettrai de aucun commentaire sur ce sujet.
On est d'accord.
Excusez-moi, j'avais une question par rapport à. Enfin, simplement une question de.
Non, ça va. Bonjour, Guillaume Cardoni, Catherine Invent. Je posais la question sur quand on voit effectivement tout le schéma, on voit bien qu'il a été conçu, enfin tout le réseau avec les lignes 15 à 18, et puis du coup, enfin on voit bien les schémas, du coup il y a une montée en puissance, 2021, on réalise, et puis après, à partir de 2030, si ça se passe comme ça, on n'est plus qu'en remboursement d'emprunt. Est-ce qu'il est envisagé à un moment, il y avait notamment, si je ne dis pas de bêtises, une ligne 18 qui était prévue de Versailles à Brienne, en tout cas des extensions de réseau, donc soit celle-ci, si on la réalise finalement pas, soit d'autres lignes, si, bah, au vu de l'usage, on disait qu'à un moment, il était pertinent d'étendre des lignes 15, 17 à 18, ou de créer une ligne 19, il y avait aussi la 11 qui devait être prolongée, mais je ne sais plus si elle était HGV ou finalement elle rebasculait sous maîtrise d'ouvrage à la TPDFM. Voilà, est-ce qu'il est prévu ce mécanisme? Et même si on va plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer, vu comme vous l'avez montré, que le mécanisme permet de réaliser un projet en 10 ans, là où un contrat est à plan, mais très, faire d'autres choses, de faire des infrastructures de navettes autonomes ou d'autres, comme on voit dans les appels à projets de PE.
Alors, c'est pas forcément une question qu'il faudrait poser en tout cas à l'EGP. La question, c'est bien évidemment dans le schéma entre Versailles, le prolongement de la ligne 18 en Versailles est un sujet qui a été abordé dans le cadre du Grand Paris Espace, hein, qui reste dans les cartons, bien évidemment. Après, une fois qu'on a un maître d'ouvrage qui a montré qu'il pouvait mener ce type d'opération complexe, difficile dans les temps, libre à l'État de faire ce qu'il veut.
Moi, je voulais savoir, à votre avis, votre opinion ou votre opinion, enfin, les deux, par rapport à la polémique qui est actuellement sur la gare du Nord. Vous avez entendu parler, j'imagine, du fait que ce projet a été validé. Avec des surfaces commerciales, des projets d'architecture, voilà, c'est assez ambitieux, et que finalement, sous une forme de pression de part et d'autre, ce projet va être revu de façon très différente. Et donc, ma question, c'était par rapport au gare de Grand Paris, comment est-ce que vous positionnez par rapport à cette polémique?
Je passe vraiment à la questionnette sur les sujets sur lesquels ma compétence.
Non, mais c'est pour ça que je parlais d'un avis ou d'une opinion personnelle.
Il y a un vrai sujet qui est celui, d'une part, de la promotion d'un certain nombre d'objets immobiliers, et notamment pour les 68 gares, je pense qu'on a plus le souci de l'équilibre économique que. Il y a le problème de l'ergonomie de ces gares et des circulations à l'intérieur. Mais c'est vrai que chacune d'entre elles est un objet particulier qui nécessite beaucoup de soins. Comment est-ce que vous allez attribuer ces gares à des groupements d'architectes ou à des architectes qui ont un cahier des charges déjà qui est très avancé sur le sujet?
On a notamment parlé d'un certain nombre de guides, type les places du Grand Paris. On a quand même, juste pour vous donner l'idée, sur les 35 milliards d'euros du projet, on a d'ici la fin de l'année prochaine, on aura déjà engagé l'ordre de plus de 21 milliards. Ça veut dire qu'une grosse partie des contrats sont déjà engagés, donc le sujet n'est plus sur la table. Après, on promeut dans l'ensemble de nos marchés une forme de cohérence de l'ensemble des gares. Et après, ce qui tourne autour de la gare, on essaye effectivement d'avoir la mixité complète. Si vous regardez par exemple le graphique que je vous ai remis, ça c'est la 15 sud, c'est une constatation de ce qui va être fait autour de la gare. Sur la gare en elle-même, à part les spécifications techniques, architecturales, qui permettent de répondre à ce que je disais, c'est-à-dire qu'on veut des gares qui soient des gares qui soient au service des voyageurs. Au-delà de ça, après, on ne peut que constater dans les projets quelles seront les mixités ou quels seront les types de projets. Sur la 15 sud, on se rend compte quand même qu'on a des projets qui ne sont pas que des projets bureaux. On a une forme de mixité de l'ensemble des destinations, ces valorisations, qui sont, après, chacun peut considérer plus ou moins équilibrées en fonction des communes, mais qui font quand même la part belle entre les logements, les équipements, les commerces, les bureaux.
Si je peux me permettre une deuxième question, qui ne s'adresse pas forcément à vous, le but n'est pas de faire passer un mentorat, mais peut-être collectif, dans le prolongement de notre discussion du début d'après-midi sur le financement des infrastructures. Est-ce que vous avez un avis sur la transposabilité de ce modèle, du modèle de la société de projet à d'autres territoires, comme en France, puisque la loi LOM introduit cette possibilité? Vous avez très bien évoqué tout à l'heure les trois piliers d'une bonne maîtrise d'ouvrage, notamment le fait d'avoir des recettes dédiées et particulièrement les recettes fiscales. Vous avez rappelé qu'à Paris, il y a un stock de bureaux exceptionnel qui permet d'avoir cette assise. Est-ce que, quel est votre avis sur la transposabilité de ce modèle? Et puis, généralement, ça peut être un sujet de discussion.
Oui, pour compléter à nouveau, par rapport à ta question, à mon sens, on devrait citer le projet dans un PPP, par exemple, sur Bretagne-Pays-la-Loire, la LGV, le GER et de la relation avec les concessionnaires, donc ça permet de sanctuariser un budget d'entretien et de réparation maintenance. Et je suis assez surpris du coup que la démarche n'a pas été retenue pour la Cité du Grand Paris, puisque depuis le début du week-end, donc on se rend compte qu'il y a un problème de régénération des voies et un problème de budget, et finalement, du fait du schéma qui a été retenu, on s'expose encore une fois à ce risque que Île-de-France Mobilité ne mobilise pas assez d'argent dans ce poste-là. Donc, pour compléter cette question, et par rapport à un vrai schéma concessif ou PPP, pourquoi ça va être retenu sur Grand Paris?
Alors, ça reste entre nous, je vois qu'il y a quand même une caméra, mais la question, je n'étais pas là à ce moment-là, par contre, j'ai eu la chance d'être directeur financier du réseau Ferré France, donc le dossier que vous mentionnez, je le connais un petit peu. La question qui se pose sur des PPP et des concessions appliquées à la Société du Grand Paris ou au Grand Paris Express, on a quand même un certain nombre de spécificités qui sont des spécificités fortes. C'est-à-dire qu'on a été créé en 2010 et la mise en service est 2030. Donc on a 20 ans de période intercalaire. Ça, c'est compliqué pour les investisseurs financiers. Ensuite, on a des horizons d'amortissement de la dette qui sont extrêmement longs. On a un sous-jacent extrêmement risqué. On ne parle pas donc, de faire un linéaire en campagne. On est en train de parler de faire des tunnels à moins 50 mètres sous Paris, avec un risque géologique, un risque politique d'acceptation des chantiers qui est quand même différent du linéaire en vitesse. Ensuite, on a un schéma institutionnel qui est le schéma institutionnel que le gouvernement a décidé par la loi, qui fait qu'effectivement, vous avez une société de maîtrise d'ouvrage qui ne maîtrise pas ni l'exploitation ni la maintenance. Donc, par rapport à ce qui a pu être fait, notamment pour les lignes en vitesse, on est quand même dans des contextes qui sont des contextes totalement différents et qui rendent le modèle du PPP ou de la concession pas directement applicable, en tout cas nettement plus compliqué. Après, il ne faut pas se retrouver dans un modèle où l'aspect financement, étant donné les risques, la longueur,
détricote totalement, je dirais, l'alignement d'intérêt entre la conception, la maintenance et l'exploitation, et au détriment des équipes complets dans le milieu du jeu. J'ai pas d'études sous la main qui auraient pu être faites en 2010 sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même des barrières qui sont compliquées pour appliquer ce modèle. Après, par rapport au fait de répliquer ce modèle, le modèle tel qu'il est fait là, avec la séparation institutionnelle et le fait d'avoir un tuyauterie spécifique uniquement pour l'investissement initial, il peut être, je pense, répliqué. Après, la question, elle est, quelles sont les recettes fiscales que vous pouvez affecter à ce modèle-là? Donc se pose la question, effectivement, du sous-jacent, est-ce qu'il est suffisamment robuste? Est-ce qu'il est, en termes de quantum, acceptable? Parce que là, on parle de taxes sur les bureaux, on parle d'une... Est-ce que vous êtes parisien, pour la plupart, est-ce que vous saviez que dans votre taxe d'habitation, dans la taxe foncière, vous payez pour le Grand Paris? Oui, bien. Quand je pose la question autour de moi, la réponse sera non, c'est pas. Donc il ne faut pas arriver sur des seuils de taxation qui font que ça devient, entre guillemets, difficilement acceptable. Mais après, il peut y avoir d'autres mécanismes. La question n'est pas tant de savoir la recette fiscale affectée, c'est sur le stock de bureaux ou sur autre chose. La question, c'est surtout d'être en capacité de répliquer une sécurisation de cette recette sur le long terme. Ça peut être une façon de détourner le fait qu'on n'a pas des cantons partout en France ou en Europe qui permettraient de répliquer vraiment le modèle de la SGP uniquement sur le stock de bureaux. Il y a beaucoup de... nous, quand on va notamment à l'étranger pour aller chercher des investisseurs, puisqu'en fait, si on regarde ceux qui financent actuellement la Société Grand Paris, le modèle est contribuable à la hauteur de 60%, les 80% c'est des investisseurs institutionnels, c'est des fonds de pension, c'est des caisses de retraite, c'est des gestionnaires d'actifs. Qui sont plus de 60% étrangers, donc en Asie, en Europe. Quand on va les voir et qu'on en profite pour avoir des discussions un peu institutionnelles avec d'autres acteurs, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui s'intéressent à ce sujet pour mettre en place effectivement ce type d'infrastructure. Mais les discussions qu'on peut avoir dans ce cadre-là sont dans le cadre de grandes métropoles. Mais je ne pense pas que ce sujet-là, il ne faut pas s'arrêter uniquement au fait de se dire bah, dans telle métropole, régional, il y aura pas assez de bureaux. Enfin, la question n'est pas là. Est-ce qu'on peut répliquer au-delà de ça avec une forme de sécurisation de cette ressource?
Outre les raisons qu'a dit M. Gaillard pour expliquer que le PPP n'était peut-être pas le bon outil ici, il faut savoir que l'État maintenant répugne à faire des PPP dans la mesure où ça devient une dette consolidante dès le premier euro dépensé. Donc en cela, c'est extrêmement pénalisant dans la situation de la France.
Et une question, la dette de la SGP, est vraiment la dette publique?
Oui, le stock et le flux annuel. Oui.
Aussi une troisième question. On a parlé de la capacité à embaucher, c'est un des grands enjeux, c'est déjà le cas. Est-ce que les CDI de chantier ont été créés pour ça? Comment vous utilisez aussi ces CDI de chantier? Est-ce que ça fait partie de l'équation justement des embauches? Et est-ce que ça a été un soulagement d'avoir sur cette possibilité juridique? Et est-ce que ça a un pouvoir, peut-être vous avez un retour d'expérience là-dessus, sur un pouvoir d'attractivité aussi par rapport aux embauches dans la société?
Alors non, on n'a pas besoin d'avoir une expérience, c'est pas un dispositif qu'on utilise de manière massive, pour être tout à fait franc. Effectivement, la question sous-jacente, c'est l'attractivité d'une société de projet dont le terme est défini, en tout cas pour la majorité des personnels, je ne parle pas de ceux qui gèrent la dette ou les contrats qui peuvent passer de 2030 ou de l'immobilier. Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on est quand même sur un projet qui est quand même un projet inédit. Hein. À part en Chine, où ils ont un projet de 230 km d'augmentation de leur métro avec 24 tunnels, on n'a pas un autre comme ça dans le monde. Donc pour attirer des ingénieurs, ça d'une certaine manière, c'est la première chose. Ensuite, après, il faut effectivement qu'on soit capable, et c'est d'autant plus facile quand on a une phase de progression, c'est qu'on peut tout structurer, de pouvoir proposer des parcours de carrière, même des parcours de carrière courts, c'est-à-dire sur 5 ou 7 ans, qui permettent aux gens de pouvoir se projeter sur un petit peu le coup d'après. Et peut-être que d'autres, par rapport à la question qui a été posée sur le devenir de maîtrise d'ouvrage, qui aurait réussi un projet comme comme celui-ci sans accro. Voilà, il y a peut-être certains qui discutent du fait que la voiture pourrait peut-être continuer, on ne sait pas. Donc, je pense que pour des gens, c'est quoi qu'il arrive, une belle carte de visite. Donc, ça.